Merci beaucoup, Fleming, de nous avoir ramené à cette cassure originelle dont nous avons, je crois, mieux compris d'abord la subtilité, par-delà un certain nombre de caricatures qu'on peut en avoir un peu facilement. Et puis aussi, l'extranéité. Finalement, vu du point de vue de 2016, qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant, quand on entend cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais où y a-t-il encore matière à ne pas s'entendre ?» Surtout ce qui nous a été raconté. Les questions du jugement dernier ne nous traumatisent plus. Nous n'avons pas envisagé de vendre des indulgences pour construire la nouvelle église de voisins bretonneux. On a du mal aujourd'hui à comprendre finalement en quoi il y a encore matière à être ou catholique ou protestant, parce qu'évidemment, et Fleming l'a bien dit, c'est un processus qui s'est mis en route, c'est un processus qui a marqué la culture, c'est un processus qui, il ne l'a pas beaucoup souligné, mais il l'a tangenté, s'est très vite inscrit dans les mécanismes de la politique. Ne serait-ce aussi que parce que nous ne sommes pas encore du tout à l'époque où chaque individu choisit personnellement son positionnement spirituel. Le principe, c'est encore que la religion du prince est la religion de son royaume. Et donc, très vite, bien, c'est les peuples qui vont s'opposer les uns aux autres en fonction d'options religieuses nationales, avec la mécanique de guerre, de violence, d'identification par rejet de l'autre qui va se mettre en place. Un processus de fragmentation qui nous conduit, en l'espace de 500 ans, au paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un paysage extrêmement compliqué, extrêmement émietté, très mouvant, dans lequel finalement il n'est pas très facile de se situer soi-même et encore moins de situer les autres. Alors en 2016, c'est quoi d'être protestant finalement? Eh bien, pour essayer de nous faire comprendre ce que peut vouloir dire être protestant, être héritier de Luther 500 ans après lui, je laisse maintenant la parole au pasteur Guilhem Rifaut.
Bonsoir. Alors, j'ai pas tout à fait le même métier que Fleming ou Bruno, alors je vais m'asseoir. Mais j'espère que vous m'entendrez si je mets le micro sur le... Alors, vous me dites... Est-ce que vous m'entendez? Là, vous m'entendez mieux? Ça va, là?
Oui.
Alors, le sujet, l'héritage spirituel et théologique de la réforme au XXIe siècle. Alors, lorsque j'ai pris connaissance du sujet que vous me proposiez de traiter... je me suis demandé comment faire pour traiter un sujet si vaste et je me suis demandé si c'était pas une forme de bizutage. Puisque d'une certaine manière, c'est 2000 ans d'histoire du christianisme qu'il faudrait retracer en quelques lignes et avant d'en arriver à notre époque. Et puis, ce serait prendre le risque de redire en moins bien ce qu'a déjà évoqué Fleming. Alors comment prendre assez de recul pour en discerner les fruits spirituels et théologiques sur ces 15 dernières années? Après tout, le XXIe siècle ne fait que commencer. Je vous propose donc pour commencer de reformuler cette question en nous demandant où en sont en 2016 les églises issues de la réforme protestante du XVIe siècle. Est-ce que ça vous va? Merci. Avant tout, commençons par définir ce que nous appelons des églises protestantes. Je vous propose de distinguer d'une part les églises issues de la réforme luthérienne, calviniste et anglicane, qu'on pourrait appeler églises traditionnelles. Si je parle de réforme calviniste, luthérienne, anglicane, tout le monde voit à peu près, grosso modo, très bien. Donc on va les appeler églises traditionnelles, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Il s'agit simplement des églises dans lesquelles la plupart d'entre nous vivent la foi. Au sens où je parlerai d'églises traditionnelles aussi pour désigner l'église catholique et l'église orthodoxe dans leur ensemble. Surtout, on parlera d'églises traditionnelles pour les distinguer d'une toute autre famille d'églises, enfin toute autre famille, c'est la même famille, mais d'une autre famille et que nous appellerons évangélique. Des églises qui sont les héritières plus ou moins lointaines de ce qu'on appelle la réforme radicale, c'est-à-dire en un mot des mouvements chrétiens qui, en Europe au XVIe siècle, à partir de l'Allemagne, entrent en conflit avec les pouvoirs temporels, de manière tantôt pacifique, tantôt violente, révolutionnaire. Des églises évangéliques qui ont également été façonnées par des siècles de réveil, c'est-à-dire de mouvements spirituels, de réformes spirituelles internes aux églises protestantes, et mouvements de réveil particulièrement vigoureux tout au long des 18e, 19e, 20e siècles. Alors bien entendu, comme nous le verrons, cette distinction ne résiste pas toujours très bien à l'épreuve des faits. Les identités ecclésiales sont complexes, elles sont parfois floues, et surtout, et ça c'est important, elles sont de plus en plus mouvantes. On parlera même plutôt en fait que d'église évangélique, de mouvement évangélique. Mais c'est à partir de cette distinction, qui vaut ce qu'elle vaut, que nous nous attacherons d'une part à évoquer alors ce qu'on pourrait considérer comme la principale source de vitalité spirituelle et théologique des églises protestantes traditionnelles au XXIe siècle. J'ai nommé l'aventure œcuménique. Et d'autre part, en essayant tant que faire se peut de dresser un panorama de ce mouvement évangélique et de son dynamisme spirituel, mais aussi démographique et puis un peu culturel. Et j'espère que parler un peu d'œcuménisme éclairera, modestement mais intelligemment, les interventions du 24 novembre sur le dialogue protestant et catholique. Et nous verrons dans les deux cas ce que les mouvements œcuméniques et évangéliques impliquent comme transformation de l'identité de nos églises et de la manière dont nous vivons notre foi. Alors si l'on devait parler de l'héritage théologique et spirituel de la Réforme, comme l'a évoqué un peu Fleming, eh bien, il faudrait sans doute parler longuement du rôle du protestantisme dans l'émergence de ce qu'on appelle la modernité. Alors Fleming, tu en as parlé. La modernité, c'est cette ère dans laquelle nous vivons où que, selon certains, nous sommes en train de dépasser, voire qui est déjà terminée. Et on parle alors de post-modernité. Quoi qu'il en soit, la modernité, c'est ce mouvement qui s'attache à considérer l'être humain pris pour lui-même comme un individu libéré du poids de la communauté et des traditions, capable de prendre des décisions sur des bases uniquement rationnelles. La modernité, c'est donc mettre l'accent sur la sensibilité personnelle, en questionnant toute forme d'autorité et en revendiquant même cette sensibilité comme étant un droit de l'homme, un droit de conscience, comme l'a dit Fleming. Voyez conscience, individualité, remise en cause de l'identité, de l'autorité au nom de sa sensibilité, de sa conscience, vous voyez tout de suite que en quoi Martin Luther était donc un homme moderne. Mais ce phénomène de la modernité a beaucoup influencé la manière dont les premières églises protestantes ont envisagé leur vie de foi en communauté. Il y a un individualisme théologique, enfin individualisme pas au sens forcément péjoratif du terme, mais un certain attachement à un salut individuel qui se traduit à l'échelle communautaire par ce qu'on appelle d'un mot barbare et très laid, par ce qu'on appelle le dénominationalisme. Alors, c'est un anglicisme. La question, c'est assez simple. Essayez d'imaginer ce qu'était une église, je ne sais pas, protestante dans un village en Alsace il y a un ou deux siècles, ou même il y a peut-être 50 ans, ou pour certaines encore à l'heure actuelle. Bon, finalement, sinon, si on prend par exemple la période qui se termine au moment de la Réforme, c'est une ère, une époque durant laquelle la question d'être chrétien ou non ne se pose pas. Bon, personne n'a envie d'être infidèle, mahométan. Bon. Donc la question qui se pose, c'est plutôt, est-ce qu'on est bien luthérien, est-ce qu'on est bien presbytérien, est-ce qu'on est, plus tard, est-ce qu'on sera un bon méthodiste? Ce sont ces questions qui importent, et chaque église va tendre à cultiver son jardin spirituel, théologique, sa propre identité, dans son coin, souvent dans sa ville, son village, son pays. Et à l'intérieur des églises même, on met l'accent sur une piété qui est plutôt individuelle, encore une fois, salue par la foi seule, et puis qui parfois est même carrément privée. Or, il se trouve que cette situation est largement remise en cause aujourd'hui. Il est possible que la modernité se soit retournée contre les églises qui en étaient issues. Les églises protestantes traditionnelles, qui ont donc accompagné ou peut-être même contribué pour une bonne part à la naissance de ce mouvement, eh bien, elles se vident. Elles sont touchées par des phénomènes bien connus de nous tous ici présents, hein, même vous, mes frères et sœurs catholiques, et ou orthodoxes, il y a une absence de renouvellement, qui peut être un effet de la sécularisation, il y a un vieillissement, ça implique une baisse des finances, il y a une crise des vocations. À ce titre, si vous cherchez, ou si vous avez des enfants qui cherchent un travail intéressant et qui souhaitent habiter à Paris ou en région parisienne, n'hésitez pas à devenir pasteur luthérien. Non, mais pour illustrer cette crise de vocation, c'est une église dans laquelle, l'ex-église évangélique luthérienne de France, la moitié des églises ont plus de pasteurs, sont plus pourvus. Alors pourtant, cette situation de crise ne doit pas faire oublier qu'un grand mouvement de renouveau vivifiant travaille les églises protestantes traditionnelles depuis le XXe siècle, traditionnelles et puis aussi évangéliques. Et je parle donc de l'aventure œcuménique. Le plus étonnant, comme le fait remarquer Alan Falconer, c'est, je crois, encore à l'heure actuelle, le président de la commission Foi et Constitution. C'est un Écossais. Le plus étonnant, comme il le fait remarquer, c'est que ce mouvement œcuménique traduit une rupture par rapport à, disons, la manière d'être qui était celle des églises issues de la Réforme. Alors Falconer se pose la question suivante: comment, après des situations de conflit, d'opposition, de schisme, situation veille de près d'un millénaire, si on considère le schisme entre l'Église d'Orient et d'Occident, ou d'un demi-millénaire, ça fait... si on considère le schisme au sein de l'Église d'Occident, comment en est-on arrivé à partir de cette situation de conflit à une dynamique de communion? Eh bien, on peut rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui l'œcuménisme plonge pour une bonne part ses racines dans l'activité missionnaire des églises protestantes du XIXe siècle. Mission luthérienne, méthodiste, plus tard pensez au YMCA, et donc l'association chrétienne des jeunes hommes, et puis pour parler de mon église, l'église protestante unie de France, le service des missions s'appelle le DEFAP. Bon. Donc imaginez des sociétés de mission souhaitant apporter l'évangile au monde entier, un monde qui n'attendrait que ça. Alors ces sociétés de missionnaires ont vite réalisé que l'existence d'églises en conflit était un contre-témoignage de l'évangile, un contre-témoignage rendu à la réconciliation à laquelle Jésus-Christ nous appelle. Il fallait donc que les églises coopèrent et se mettent en marche vers l'unité, revenant ainsi sur des siècles de compétition dénominationnelle et de culture d'une certaine autosuffisance spirituelle. J'ai pas dit de suffisance spirituelle. Les églises protestantes, pour beaucoup d'entre elles, vont pourtant réussir à dépasser ces oppositions. À la fin du XIXe siècle, toute une série de réunions de sociétés missionnaires ont alors lieu, qui aboutissent en 1910, à Édimbourg, à la tenue d'une conférence mondiale des missions. Conférence que beaucoup considèrent comme l'acte de naissance du mouvement œcuménique. Cette conférence d'Édimbourg se voit prolongée en 1920 par la conférence anglicane de Lambeth, qui émet un appel à tous les chrétiens pour plus d'unité, et qui trouvera un écho déterminant au sein du christianisme orthodoxe dans une encyclique émise par le patriarcat œcuménique, donc Constantinople, la même année, en 1920, intitulée « À toutes les églises du Christ », un appel à toutes les églises du Christ. Donc entre 1910, conférence missionnaire à Édimbourg, et 1920, conférence anglicane de Lambeth et encyclique du patriarcat œcuménique, vous voyez bien ce qui s'est passé. Hein. C'est la Première Guerre mondiale qui a révélé de manière la plus abominable possible la faiblesse d'églises trop divisées, leur incapacité à proclamer un évangile de réconciliation qui puisse toucher le monde entier. Qui plus est, leur été à l'internationalisme, marxiste du terme, hein. Oui, mais au sens, c'est la 1919, c'est la création de la SDN, hein, l'ancêtre de l'ONU. Dès lors, le mouvement prend son essor. En 1927, à Lausanne, se réunit pour la première fois la commission Foi et Constitution, qui est formée de représentants des églises protestantes et orthodoxes. Et les rencontres vont se poursuivre. On se retrouve à Édimbourg, à nouveau en 1937, à Lund en 1952. Lund, maintenant, on sait tous où ça se trouve depuis 15 jours. À Montréal en 1963, à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1993. Entre-temps, c'est en 1948 la fondation du Conseil œcuménique des Églises par cette même commission Foi et Constitution. Entre-temps, c'est le deuxième Concile du Vatican de 62 à 65 et la participation de l'Église catholique au Conseil œcuménique des Églises à partir de 1968. Mais comment est-ce qu'on définirait la participation de l'Église catholique au COE?
Elle est partielle.
Oui, j'allais dire limitée, mais ça.
Partielle, voilà. L'Église ne participe pas à toutes les commissions.
Voilà, c'est ça. Alors, au sein de ces réunions, on y discute de tout un tas de sujets théologiques, attenant aux divisions de l'Église. On va parler des sacrements, combien, qu'est-ce qui s'y passe, d'ecclésiologie, c'est-à-dire par exemple, question de l'épiscopat, qui a un évêque, qui n'en a pas, est-ce qu'il y a une succession apostolique, quelle autorité est la sienne. On va parler du rôle du prêtre. On pose la question du monachisme, très présent dans l'orthodoxie, pas tellement dans le protestantisme. On va parler de la justification par la foi, comme Fleming l'a dit, c'est une bannière, on pourrait dire c'est un tube protestant. Est-ce que les orthodoxes depuis l'origine ont toujours cru des choses très différentes? Évidemment pas. On va parler de relations entre l'écriture et la tradition, de la place de l'expérience dans la vie de la foi. On va se poser la question du rôle du credo. Puis même de la nature de l'Église et même de la fin de l'Église. La fin, au sens, pas le terminus, mais sa visée. À ce titre, Falconer distingue trois temps dans toute cette aventure. Le premier temps, c'est une phase de comparaison, puis vient la coopération, et enfin une phase de communion. D'abord, on se compare, ensuite, le temps passant, on se cherche des points communs, et en persévérant, on cherche à agir ensemble chaque fois que la théologie le permet. On revient en fait aux sources de la foi, dans les groupes œcuméniques en général, ou au groupe des foyers interconfessionnels ici, c'est souvent une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Il faut se réunir autour du Christ. On en revient aux sources de la foi. Ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ. Et pour finir, on avance dans la communion, on essaie de mettre de côté les divisions nées de facteurs économiques, politiques, sociaux et culturels, qui sont toujours difficiles à démêler, parce que souvent justifiés après coup par la théologie. On essaye d'agir ensemble, chaque fois que faire se peut, chaque fois que la théologie le permet. C'est par exemple ce qu'on vit lors des célébrations œcuméniques au moment de la semaine de l'unité. C'est ce principe selon lequel faisons ensemble tout ce qu'on peut faire, tant que la théologie nous le permet. Le résultat de tout ce travail, d'une certaine manière, c'est le document Baptême, Eucharistie, Ministère, émis en 1982 par la commission Foi et Constitution réunie à Lima, et qui représente, moi qui suis né en 1984, un véritable viatique pour les églises protestantes traditionnelles, souvent en crise à l'heure actuelle. On peut vraiment le voir comme un pain pour ce jour. Et voici sans doute ce document, l'héritage que nous sommes appelés à partager en ce 21e siècle naissant. Cependant, si l'aventure œcuménique porte des fruits, elle crée également de nouvelles difficultés. En poussant les églises à s'interroger sur leur identité confessionnelle, elle provoque des crises. Alors pour schématiser, mais imaginez la peur d'un protestant de devenir catholique. Certains vont quitter l'église. C'est des choses que vous entendez, hein. Parmi les plus anciens, le dialogue œcuménique, ou le dialogue entre catholiques et protestants, ça peut être vu comme une marche vers une intégration des églises protestantes, pure et simple, une assimilation par l'église catholique, ça effraie. Bon. Ou de même, penser aux critiques au sein de l'église catholique vis-à-vis de ce qui serait la protestantisation de l'église catholique ou la querelle du modernisme. Qui entraîne aussi des départs au sein de l'Église, qui ont entraîné des départs au sein de l'Église catholique, ou des positions en exclusion. En passant de problèmes théologiques aux questions politiques, socio-économiques et culturelles, le Conseil œcuménique des Églises va également donner l'image d'une institution politisée, ce qui va avoir des conséquences dramatiques et tout à fait contraires à la visée du dialogue œcuménique. Par exemple, en 1968, le Conseil œcuménique des Églises décide de lancer un programme de lutte contre le racisme et de soutien aux personnes luttant contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et bien, par exemple, une église comme l'église presbytérienne d'Irlande va trouver que ça va trop loin dans l'application politique des églises et quitter le Conseil œcuménique des Églises. Alors je ne sais pas s'ils sont rentrés depuis, j'ai pas réussi à... Ce double phénomène de rapprochement et de division, paradoxalement, révèle dès lors que les barrières confessionnelles qui autrefois séparaient les églises les unes des autres se sont aujourd'hui désormais déplacées à l'intérieur même des églises. Si vous fréquentez des groupes œcuméniques, les échanges en général traduisent bien ça. Prenons par exemple, si on prend le cas du groupe des foyers interconfessionnels qui nous conduira dans la prière tout à l'heure, et bien, on voit bien que les lignes de partage courent maintenant parfois même au sein des familles, provoquant de nouvelles questions quant à la manière de vivre sa foi en Église, sa fidélité à Christ. C'est d'autant plus important que le mouvement vers la communion n'appartient pas aux institutions œcuméniques proprement dites, qui sont des associations internationales. C'est aux communautés et aux membres des églises, c'est-à-dire à nous, qu'il revient d'agir concrètement, de dessiner des manières nouvelles d'être chrétien. Et dans une banlieue comme la nôtre, on peut sans doute se dire qu'on est aux premières loges pour assister à ces phénomènes, et même se dire qu'on en est les acteurs. Et nous verrons bien où le souffle de l'esprit nous mène. Un autre résultat du dialogue œcuménique, héritage direct de celui-ci depuis deux siècles, réside dans les processus d'union d'églises protestantes. C'est le cas, par exemple, de l'Église protestante unie de France, mais vous avez aussi maintenant une Église protestante unie de Belgique, et au sein de l'Église protestante unie de Saint-Quentin, on accueille dans nos locaux la Fédération protestante malgache des Yvelines. L'Église protestante malgache, comme l'Église protestante unie de France l'Église protestante unie de Belgique, c'est une union d'églises réformées et luthériennes. Vous pouvez aussi prendre l'exemple de l'Église évangélique en Allemagne, l'EKD, qui est le fruit de l'union, en tout et pour tout, d'une vingtaine d'églises réformées et luthériennes. Et si vous demandez à des pasteurs de l'EKD s'ils sont plutôt de tradition luthérienne ou réformée, ou si les communautés qu'ils servent sont plutôt à l'origine luthérienne ou réformée, souvent ils seront incapables de vous répondre. Ce qui est très intéressant. On peut citer aussi également le cas de l'Église unie du Canada. Pourquoi ? Parce que c'est un peu différent. C'est une union d'églises réformées et d'églises méthodistes. Et c'est une union qui regroupe l'Église réformée du Canada, l'Église méthodiste du Canada et qui devait rejoindre l'Église anglicane du Canada. Comme vous voyez, le spectre, ça a avorté, mais le spectre est large et traduit un mouvement inverse de celui né de la réforme. Jusqu'au XXe siècle, on aurait du mal à imaginer que dans une même Église, méthodiste, réformée et anglican, discutent pour s'unir. On le voit, si les églises protestantes ont contribué de manière déterminante à façonner le mouvement œcuménique les a aussi largement transformées. D'une situation de conflit, de compétition, elles ont avancé dans la communion, multipliant les accords théologiques et partageant les ministères. Et à force de rencontres, d'échanges, de dialogues, elles ont vu leur identité renouvelée. Il n'y a plus beaucoup d'églises protestantes, je pense, qui se conçoivent vraiment comme par opposition au catholicisme. Ce qui était... vous avez toujours quelques anciens qui vont vous dire « on n'est pas catho » et ça fait catho. Mais c'est très atténué. Je pense que c'est plus qu'une question de génération maintenant. Donc à nouveau, je vous invite à considérer la dynamique œcuménique comme sans doute la principale source de dynamisme spirituel et théologique des églises protestantes traditionnelles. Alors si j'arrêtais là mon exposé, nous n'aurions qu'une vision très, très incomplète, bien qu'enthousiasmante, du panorama des églises protestantes en ce début de XXIe siècle. Mais l'héritage de la réforme, c'est aussi, on l'a dit, le mouvement évangélique. Et le fait est que l'essor des églises évangéliques, pentecôtistes, la multiplication des groupes de maisons évangéliques constitue un challenge pour nos églises traditionnelles, catholiques, protestantes et orthodoxes. Lorsqu'on parle de chrétiens évangéliques, tout le monde sait de quoi on parle. Vous savez tous de quoi on parle. Enfin, vous voyez tous. À peu près. toujours quelqu'un qui va les appeler évangélistes plutôt qu'évangéliques. Bon. Là où ça se complique, c'est lorsqu'il s'agit d'en tracer les contours. Là, la tâche se complique. Alors, quand bien même nous allons essayer de dresser un rapide portrait de ce mouvement, en essayant de ne pas trop le caricaturer et de lui rendre justice. Commençons par constater que de nos jours, la grande majorité des chrétiens protestants vit dans l'hémisphère sud. Il s'agit là d'un bouleversement dans le monde du protestantisme. Un bouleversement qui s'est opéré en à peine l'espace d'un siècle. Si en Europe le protestantisme a encore l'image d'une religion nordique ou anglo-saxonne, à l'échelle mondiale, il est de fait bien plus africain et asiatique qu'occidental. Là, je parle du protestantisme en son ensemble. C'est donc toute une partie du monde qui était autrefois regardée comme animiste, en Afrique ou païenne, le bouddhisme et les animismes en Asie, qui abrite aujourd'hui la majorité des protestants. Qui aurait imaginé, il y a un siècle, que les deux plus grandes églises... Est-ce que vous savez où se trouvent les deux plus grandes églises presbytériennes dans le monde ?
C'est où ?
Ah, pas mal. Non, alors, monsieur l'a dit, c'est en Corée. Elles sont coréennes. Et est-ce que vous savez où se trouve la plus grande église, la plus grande communauté, plutôt qu'église, pentecôtiste dans le monde ?
Brésil.
Ah, vous êtes fort. Brésil, ouais. La Nigeria, pas loin. Pourtant, mais si on vous avait posé la question il y a un siècle, c'est pas du tout ce que vous auriez répondu. Et vous auriez eu raison, d'ailleurs. Pourtant, les évangéliques sont actuellement le deuxième plus grand groupe de chrétiens dans le monde. Donc là, je parle bien du mouvement évangélique. Le deuxième plus grand groupe de chrétiens dans le monde après l'Église catholique. Et si le protestantisme évangélique était une confession à part, une religion à part, ce serait la quatrième religion mondiale, la plus importante, après le catholicisme, l'islam et l'hindouisme. Donc à parler comme ça, on pourrait penser que finalement, c'est pas si difficile à définir que ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Par exemple, à l'origine, au XVIe siècle, évangélique, c'est tout d'abord un synonyme de protestant. Ça paraît encore aujourd'hui dans le nom de plusieurs églises protestantes traditionnelles. Considérez l'église évangélique luthérienne en Amérique, l'église évangélique luthérienne tamoule en Inde, ou l'ex-église évangélique luthérienne de France, qui n'appartiennent donc pas au mouvement évangélique tel que nous le désignons aujourd'hui. Et cette appellation a en fait été adoptée, on pourrait peut-être même dire recyclée, par les mouvements de réveil, c'est-à-dire ces mouvements de réforme interne au protestantisme, qui se sont succédés du XVIIIe siècle à nos jours. Alors le mouvement évangélique possède plusieurs traits caractéristiques, qui ont été par exemple relevés par quelqu'un comme Mark Knoll. Alors, Mark Knoll, c'est un historien américain, qui lui-même est réformé évangélique. Réformé évangélique, vous voyez que, comme je le disais, les identités sont parfois subtiles. Alors, ces traits caractéristiques, ce serait l'importance de la conversion personnelle. On ne baptise pas les enfants de couple qu'on ne voit jamais d'ailleurs par ailleurs. C'est la place prépondérante de la Bible. Ça, c'est un trait commun à à la tradition protestante. Peut-être qu'elle s'est un peu essoufflée dans les églises traditionnelles. Alors bien sûr ça peut elle est très vivace dans les églises évangéliques. Par exemple, vous avez une tradition de mémorisation de versets. Quand on cite un verset biblique, on précise le numéro du chapitre et le numéro du verset. On pourrait citer aussi comme trait caractéristique l'effort missionnaire. C'est un mouvement un peu anarchique, le monde évangélique. Mais s'il avait une épine dorsale, ce serait sans doute, enfin il en aurait plusieurs, mais ce serait, on peut dire qu'il est structuré autour de mouvements missionnaires, beaucoup. Et puis aussi un attachement, selon des degrés divers, au prosélytisme. Donc ce qui fait qu'en général, ce sont souvent des églises évangéliques qui sont, par leur activité missionnaire, aux premières loges, dans des conflits avec... l'hindouisme, dans ce qu'il peut avoir parfois de militants de nationalisme, de nationalistes ou l'islam. Je ne parle pas des églises d'Orient. Et puis une théologie particulièrement axée sur la croix. Dieu est mort pour pardonner le pardon de nos péchés. Fleming, tu parlais du du fondamentalisme. Alors le fondamentalisme, je ne sais pas si c'est encore vraiment un immense danger qui guette le monde œcuménique, le monde évangélique. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir des dérives liées à un biblicisme, à un littéralisme. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle fondamentalisme et qui est souvent un épouvantail, finalement, est-ce que c'est pas quand même circonscrit au monde américain au début du XXe siècle ? Ça, je dis pas que définitif, mais je pense que c'est. On peut dire ça comme ça. Alors, au sein de ce mouvement, voire pour certains à part, on trouve une autre famille qui est la grande famille pentecôtiste, qui, elle, insiste sur les pratiques du Nouveau Testament. Le baptême du feu, le baptême de l'Esprit Saint comme à Pentecôte, je ne dis pas que ça soit absent dans le reste des traditions protestantes, catholiques et orthodoxes. Hein. En insistant sur les dons spirituels ou charismes, par exemple la glossolalie, hein, le parler en langue. Alors le Nouveau Testament dans l'édition Gallimard, traduit par parler en charabia. Bon, mais je ne pense pas qu'il y ait d'intention polémique, hein, mais. Et par exemple, d'autres charismes, alors d'autres activités charismatiques, guérison miraculeuse, le don des prophéties, toutes choses qui d'ailleurs n'étaient pas étrangères à saint Paul, ou même à Jésus, hein, qui était un juif charismatique, il ne faut pas l'oublier. Le pentecôtisme, ah oui, c'est ce que disait, comment il s'appelle ? Je retrouverai le nom, un historien catholique. Le pentecôtisme est aussi, d'un point de vue démographique, le courant le plus dynamique du christianisme. Bon, alors les chiffres valent ce qu'ils valent, surtout en cette période. Mais on constate que les pays où les chrétiens évangéliques sont les plus nombreux n'en comptaient, pour ainsi dire, aucun il y a 100 ans. Et une étude qui s'attache à une fourchette large considère qu'il y a jusqu'à 80 millions d'évangéliques au Brésil. Pour vous donner un ordre de grandeur, surtout que beaucoup de catholiques sont dans la salle et vous êtes un peu plus d'un milliard, un milliard deux. Donc 80 millions d'évangéliques au Brésil, ça correspond au nombre de membres revendiqués par l'Alliance réformée mondiale. Il y a 75 millions, si on compte largement, d'évangéliques aux États-Unis. La Fédération luthérienne mondiale revendique 74 millions de membres. On compte également, donc ça vous donne un ordre de grandeur. On peut considérer qu'il y a 54 millions d'évangéliques en Chine, 33 millions en Inde. De fait, des pays comme le Brésil, le Nigeria, la Corée du Sud, le Congo-Kinshasa, le Mexique, l'Afrique du Sud ont rejoint les États-Unis et le Royaume-Uni, qui étaient les principaux foyers du mouvement au XXe siècle, au rang des pays les plus accueillants à ce mouvement. Alors là où les choses se compliquent un peu, c'est qu'il s'agit d'une manière de vivre sa foi qui est très influente et qui ne possède pas de frontières réellement nettement tracées. On a vu que les frontières de ce qu'on pourrait appeler les dénominations, les confessions, bougent. Au contraire, on peut être anglican et charismatique. On peut fréquenter des assemblées de Dieu et en même temps une église luthérienne. J'ai une amie qui chante dans une chorale évangélique et qui le dimanche va à Saint-Julien-le-Pauvre. Parce qu'elle est melkite. Donc les mêmes enjeux que nous avions évoqués dans le cadre de l'œcuménisme apparaissent ici. Les églises protestantes traditionnelles et évangéliques tendent à voir leur identité s'entrecouper. Par exemple, il a toujours existé un courant évangélique au sein de l'église réformée de France, et qui perdure, de manière vigoureuse d'ailleurs en ce moment, au sein de l'église protestante unie de France. Alors c'est Lacroix en avait parlé un petit peu il y a quelques mois. A l'inverse, certaines églises évangéliques ont perdu les traits caractéristiques de ce mouvement. Vous avez des églises évangéliques, si vous y mettez les pieds, ou si vous les écoutez, plus rien ne les distingue au quotidien d'églises plus traditionnelles. Et vous avez des églises évangéliques, par exemple à la campagne, qui font face au même type de crise générationnelle que les églises traditionnelles. Bref, et là je ne vous apprends rien, on retrouve aussi au sein de nos églises traditionnelles, en tant que protestants, catholiques ou orthodoxes, de nombreux fidèles qui, sans appartenir à des églises pentecôtistes constituées, les fréquentent et où on adopte les pratiques en termes de piété, par exemple, en termes de musique. le mouvement pentecôtiste produit énormément d'hymnes de louange sur le modèle un peu pop anglo-saxon. Influence en termes d'instrumentation. On passe de l'orgue à guitare, basse, batterie. J'aime pas trop ça. Pensez ne serait-ce qu'aux soins qu'on apporte aujourd'hui à notre utilisation dans les églises des réseaux sociaux. Ça peut se traduire aussi dans les postures corporelles. On est sans doute plusieurs ici qui, lorsqu'on prie le Notre Père, ben, on le prie le main ouverte plutôt que les mains jointes. Ou également les penser aux manières d'exprimer verbalement sa foi. Si vous dites à quelqu'un « ça va », il vous répond « oui, par la grâce de Dieu », et ben à demain, à dimanche, « oui, si Dieu le veut », qui ressemble d'ailleurs un peu à ce que la manière dont parlent les musulmans ou les gens originaires du Maghreb. Et donc ça, ce sont des choses qui naissent de ces mouvements entre églises évangéliques et le reste des églises traditionnelles. Et ces personnes qui sont un peu fluides, liquides entre ces églises, c'est ce qu'on appelle généralement, c'est une caricature un peu, mais c'est ce qu'on appelle les charismatiques. Après, il y a des mouvements charismatiques tout à fait constitués institutionnellement, enfin la communauté de l'Emmanuel. Je vous apprends rien. Alors à partir de là, se posent des questions. Comment, par exemple, combiner la théologie protestante classique, dont on a eu un bel aperçu avec Fleming, théologie protestante traditionnelle, et de nouvelles pratiques, ces nouvelles cultures spirituelles, voire cultures tout court. Est-ce que les lecteurs de Søren Kierkegaard et les adeptes du parler en langue peuvent communier? En principe, évidemment, mais dans la réalité, ça peut être un peu plus électrique. Et à nouveau, ce que chacun vivait autrefois au sein de sa propre communauté distincte se vit aujourd'hui de plus en plus souvent au sein d'une même communauté. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est pourtant fondamentale, c'est la dimension populaire du mouvement évangélique. Ça, c'est, on pourrait quasiment l'opposer à un certain héritage. Est-ce que la réforme est... Enfin, non, c'est pas une question, c'est un fait historique. La réforme protestante en Allemagne au XVIe siècle, enfin en Europe, c'est un mouvement c'est un mouvement bourgeois, pour une bonne part, pas exclusivement, bien sûr. Donc c'est également une source de défi au sein même du mouvement, cet attrait populaire. Parce que là, c'est une source de défi là où le mouvement évangélique est le plus présent, c'est-à-dire dans les pays du Sud, où il nourrit de nombreuses espérances. Imaginez ce que plusieurs dizaines de millions de personnes se disant chrétiennes devraient pouvoir accomplir en unissant leurs forces dans des pays où la situation sanitaire, politique, économique est parfois critique. Alors pourquoi est-ce que l'on ne voit rien venir et pourquoi de tels espoirs sont-ils déçus? C'est une question qu'on peut se poser. Il est possible que les églises traditionnelles des pays du Nord n'aient pas toujours su montrer le bon exemple en termes de rapport au pouvoir politique. Par exemple, nous avons vu qu'il a fallu aussi, dans un autre ordre, attendre la Première Guerre mondiale pour que les églises du Nord prennent au sérieux le ministère de la Réconciliation. Alors, encore une fois, je terminerai là. L'aventure œcuménique doit certainement être pour nous une source d'inspiration et un encouragement à dépasser les oppositions pour considérer de manière renouvelée ce que signifie être membre du corps du Christ et progresser sur un chemin de communion. Prêtons attention aux lignes qui bougent et qui passent maintenant à travers nos communautés et tâchons de prendre soin de nos frères et sœurs afin que la marche vers l'unité ne soit pas source de nouvelles divisions. Enfin, les années à venir nous diront également si les églises protestantes traditionnelles sont capables d'accueillir en leur sein ce qui, dans le mouvement évangélique, est le fruit du travail de l'Esprit-Saint. Mais il n'est pas impossible aussi que les chrétiens évangéliques aient aussi à apprendre de la douceur et de la prudence avec laquelle les chrétiens d'églises plus traditionnelles ont appris à vivre leur foi. Voilà, au terme de ce parcours, j'espère... avoir répondu à vos attentes quant à l'évocation de la situation du protestantisme au XXe siècle et avoir pu ainsi témoigner, de manière certes ordinaire, mais du travail de l'esprit au sein de ma tradition, le protestantisme. Merci.